Bonjour et bienvenue sur Radio CSIRT, votre rendez-vous quotidien de l'actu de la cybersécurité. Nous sommes le vendredi 20 septembre 2024, je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct des terres du Berry au cœur de l'Indre. Et je suis accompagné de Stanislas pour cet épisode spécial. Stan, peux-tu te présenter auprès de nos auditeurs et auditrices ?
Bonjour, je tiens à te remercier pour l'invitation. Je suis Stanislas Gomez, chef de projet dans le domaine de la lutte contre la fraude au sein d'une banque.
Chers auditrices et auditeurs, il faut savoir que ce podcast est produit 7 jours sur 7 grâce à la vigilance de Stan qui m'a interpellé un dimanche en précisant que je n'avais pas publié un épisode aujourd'hui. Ne jamais faire un projet en famille, jamais, jamais. Commençons notre revue d'actualité par un article du Sens qui nous annonce un faux site GitHub intitulé githubscanner.com. Cet article précise que des développeurs sont ciblés par une campagne de phishing, les victimes recevant un email prétendant provenir de l'équipe de sécurité de GitHub, les informant d'une vulnérabilité dans leur dépôt et les incitant à suivre un lien vers un faux site pour obtenir des détails sur la correction. Ce site malveillant présente un captcha truqué après validation. Un JavaScript copie une chaîne d'exploits dans le presse-papier de la victime, ensuite ce script va télécharger et exécuter un fichier download.txt qui lui-même télécharge un fichier malveillant, le l6e.exe. C'est un voleur d'informations connu sous le nom de LumaStealer.
On est bien sur un classique de la famille des infostealers, en particulier LumaStealer qui récupère des données sensibles comme les identifiants de connexion, les informations financières et les clés SSH particulièrement.
Heureusement que Microsoft Defender détecte rapidement l'exécutable malveillant et plusieurs logiciels antivirus l'ont également répertorié. Cependant, le domaine github-scanner.com n'est toujours pas bloqué à cette heure par la liste de navigation sécurisée de Google, le Safe Browsing.
Tous les détails en lien dans la description de cet épisode.
Dans les vulnérabilités de ce jour, le CERT-FR nous informe que les produits HPE Aruba Networking sont ciblés par plusieurs vulnérabilités critiques permettant l'exécution de codes arbitraires à distance dans AOS.
Pour atténuer ces risques, il suffit de patcher. En plus, c'est disponible et gratuit sur le site de HPE. L'article de Klubik nous apprend que Disney a récemment subi une fuite massive de données sur sa plateforme de messagerie collaborative interne, Slack. L'attaque a été revendiquée par le groupe de hackers Nullbulge, qui a ensuite divulgué une exfiltration de données de plus d'un téraoctet.
Je te propose de faire un focus pour nos auditrices et nos auditeurs sur le groupe Nullbulge. C'est un groupe d'activistes qui a émergé en 2024. Il cible les chaînes d'approvisionnement logiciel des applications basées sur l'IA et les plateformes de jeux vidéo essentiellement. Leur méthode repose sur une exploitation des failles dans l'écosystème logiciel en utilisant des outils et des tactiques bien connues mais très efficaces.
C'est en juillet 2024 qu'ils ont revendiqué le vol de 1,2 téraoctets de données du Slack interne Disney. Ces données comprenaient des projets en cours, des communications internes et des identifiants critiques.
Exactement. Nullbulge s'appuie principalement sur des outils d'accès à distance, des RAT, comme AsyncRAT ou XWARM, largement disponibles dans le domaine public. Ce sont des outils qui permettent de maintenir un accès persistant au système compromis. Je vous propose d'étudier les quatre phases. AsyncRAT et XWARM, ce sont des RAT qui permettent d'exécuter donc des commandes à distance, de voler des informations d'identification, d'exfiltrer des données à partir de machines infectées. Ces outils offrent une interface utilisateur simple pour les hackers avec des fonctionnalités comme l'enregistrement de frappe, donc des keylogging, des keyloggers, l'extraction de mots de passe et l'exfiltration silencieuse de données. La deuxième phase, ils vont déployer, après exfiltration des données, le malware Logbit. Ils implémentent le ransomware Logbit via des builders dans des source codes qui ont été divulgués en ligne. Après, il y a le poisoning the well, donc l'empoisonnement du code. Nullbulge est particulièrement... Ils sont vraiment très doués pour empoisonner des projets parce qu'ils vont se prendre sur des projets qui sont très demandés, très, très visibles. Ils insèrent du code malveillant et à la fin, ils vont exploiter toutes les faiblesses et la dernière phase du processus d'intégration continue.
Effectivement, tu as raison. Mais Nullbulge est un groupe qui communique ses exploits à travers un portail d'extorsion sur le dark web pour forcer le paiement d'une rançon. Leur portail annonce le nom et la volumétrie exfiltrée des entreprises compromises, entre autres. Ce qui m'a surpris dans l'article, c'est qu'ils mélangent leurs revendications activistes avec des objectifs financiers. Ils mettent en avant un discours sur la protection des droits des artistes tout en réalisant des attaques lucratives.
Bah, on peut conclure que les activités de Nullbulge montrent une motivation financière avant tout.
Dans la rubrique police, les autorités allemandes ont saisi 47 plateformes d'échange de crypto-monnaies opérant sur le territoire allemand, utilisés par des cybercriminels, notamment des groupes de rançon judiciaire. Ces plateformes permettent des transactions anonymes, contournant les régulations de KYC du système financier.
C'est la police fédérale allemande, BKA, qui a lancé cette opération nommée Opération Final Exchange, qui a enfin permis la saisie des serveurs. Il faut voir qu'ils ont saisi des serveurs de production, de sauvegarde et de développement de toutes ces plateformes incriminées.
Ce qui fait mal pour les cybercriminels, c'est que le BKA a récupéré des données utilisateurs, des adresses IP et des enregistrements de transactions. ce qui va permettre de poursuivre les investigations et potentiellement mener à des arrestations.
Les chiffres communiqués par le BKA sur ces plateformes sont saisissants. Sur les 6 plateformes principales, on note 4,5 millions de transactions financières pour 1,6 million d'utilisateurs. Les opérateurs de ces plateformes font face à des accusations de blanchiment d'argent et de gestion de plateformes illégales. Je vous recommande de lire l'article de Bleeping Computer. C'est une très belle opération des services de police. Et ça démontre encore une fois de plus que on peut quand même faire du mal à ces cybercriminels. Dans les fuites de données de ce jour, on apprend que le loueur de voitures Hertz a été victime d'une fuite due à une vulnérabilité critique connue sous le nom d'indirect objet référence. C'est une faille qui permet aux utilisateurs non identifiés d'accéder aux rapports de sinistres d'assurance d'autres clients. Quoi, bref. Quand on lit l'article, on se rend compte que le développement de ce portail permet en modifiant l'URL, l'URL n'est pas protégée tout simplement, c'est-à-dire qu'à la fin vous avez un chiffre, ça fait 25, vous mettez 26 et vous voyez le dossier de l'autre client. C'est surprenant, il n'y a pas de validation concernant les droits d'accès des utilisateurs. Je sais pas toi Stan, qu'est-ce que ça t'a semblé quand t'as lu l'article?
C'était un peu léger sur le plan technique. En tout cas, ça mérite quand même qu'on y porte attention. Donc je vous recommande quand même la lecture de celui-ci. Il va donner quelques informations sur le type de données fuitées, nom, prénom, adresse, toujours d'après le site de JB Hackers.
Oui, et puis ça a l'air de toucher essentiellement les États-Unis. Donc si vous avez loué une voiture cet été aux États-Unis, regardez. Mais il faut avoir eu un accident. Louer la voiture ne suffit pas, quoi. Et ben voilà, ce podcast de Radio Cessort du vendredi 20 septembre 2024 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Merci à Stan pour sa participation. C'était très dur pour une première, car on n'avait pas du tout répété. Stan, j'espère que tu as pris autant de plaisir que moi, mais qu'est-ce que t'en penses?
Je pensais pas que ça demandait autant de travail d'enregistrer 5 à 10 minutes de podcast. Maintenant, je m'en rends compte. En tout cas, j'ai pris du plaisir à enregistrer ce podcast avec toi et j'espère que les auditeurs...
Tu peux pas lire. Si tu te mets à lire, ça se voit. Si tu maîtrises pas le truc, c'est des choses qui sont très, très compliquées.
Ouais.
On l'a vu parce que là, on parle de 7, mais réellement, on est plus proche de 10 répétitions. Il est 9h34. Quelle heure il est? 21h34. Attends. Non, il est 21h56. On n'a pas fait le montage, on n'a pas diffusé. On voit bien que enregistrer à deux, c'est quelque chose qui s'apprend, qui s'entraîne. Mais j'ai hâte qu'on refasse une prochaine fois un autre épisode. Alors pour vous, chères auditrices et chers auditeurs, je ne sais pas ce que ça va donner au montage. Il y aura peut-être des passages lents, des passages qui sont pas assez précis. Mais vous trouverez bien entendu tous les liens qui nous ont permis de construire cette revue d'actualité. N'oubliez pas, si vous avez des questions, vous nous laissez un message sur notre répondeur. C'est gratuit, hein, on ne va rien vous facturer, hein, je vous rassure. Hein. Donc c'est au 07 68 72 20 09. On est là pour vous. Stan, le mot de la fin?
Prenez soin de vous et à demain pour un nouveau rendez-vous.
Ouais, non, mais demain, je le fais tout seul. Hein.
Ah bah, oui.
Non, c'est bon.
Et demain, je vais à l'entraînement.
Ouais, puis tu vois la différence, papa, il apprend par cœur les textes, alors que toi, on en reparlera. Et puis j'ai faim, quoi.